7h50 ici à Paris, notre invité ce matin, Nassira El-Mohadem, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, ancienne directrice du Bondy Blog. Vous avez écrit et publié cette année Les filles de Romorantin. Alors Romorantin, c'est la ville où vous avez grandi. C'est dans le Loir-et-Cher, en plein centre de la France. 18 000 habitants, c'est ce qu'on appelle une ville moyenne. Pourquoi avoir choisi d'y retourner? Qu'y avait-il à raconter à Romorantin pour la journaliste que vous êtes aujourd'hui?
Beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est en faisant ce projet que je m'en suis rendu compte. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce livre. Enfin, au départ, je savais pas tellement si c'était plutôt un livre ou un documentaire ou une série d'articles comme j'ai l'habitude de faire. Et puis très rapidement, le livre s'est imposé. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie d'opérer ce retour parce que à chacun de mes retours à Romorantin, que j'ai pas vraiment quitté puisque j'ai encore ma famille et mes amis ici, j'avais envie de raconter ce que cette petite ville était devenue depuis que je l'ai quittée en 2003, l'année de la fermeture d'une grande usine, l'usine Matra Automobile.
Alors c'est celle qui fabriquait les Renault Espace, qui a été pendant longtemps le modèle de la voiture familiale française.
Ouais, surtout le premier monospace qui a été créé sur le marché européen. Et je voulais à la fois raconter ce que la ville était devenue et puis surtout ce que les gens étaient devenus, mais mes proches, pour savoir l'évolution des parcours. Et puis en miroir aussi ce que moi je suis devenue vis-à-vis de la ville.
Alors depuis 2003, depuis la fermeture de cette usine, en un peu plus de 15 ans, ce que vous racontez, c'est un peu l'histoire de la désindustrialisation d'une partie de la France et ses conséquences. C'est un peu ça le récit en fil rouge.
Oui, c'est ça. On est dans un territoire qui a été construit autour de cette usine. Faut savoir qu'à l'époque, jusqu'en 2003, il y avait des gens qui venaient de partout de la région et même ailleurs de la région pour venir travailler à Romorantin. Les gens venaient de Bourges, de Tours, d'Orléans. D'Orléans, parfois, faisait 2 heures de route par jour pour pouvoir venir travailler dans cette grande usine. Et à partir du moment où tout ça s'est terminé, évidemment, la ville a changé. Et donc, l'idée, c'était de raconter ce que cette ville devient une fois qu'une usine comme celle-là s'arrête.
Alors, vous êtes vous-même fille d'ouvrier marocain. Dans ce livre, vous racontez un peu de votre histoire et donc de leur histoire. La France industrielle, c'est aussi une France de l'immigration. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous représentez, vous, française, femme, arabe, venue de cette France des ronds-points, qui avait fait de grandes études, dirigé un média?
Je me méfie beaucoup des symboles et des représentations. Je pense que chaque parcours est unique. Moi, j'ai ce parcours-là, d'autres ont leur parcours à eux, et il était hors de question pour moi de m'ériger moi-même en modèle. Maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de raconter aussi les personnes d'origine immigrée, que ce soit la première génération, la deuxième, la troisième, qui vivent dans des petites villes comme celle-là, qui n'habitent pas forcément dans les banlieues françaises, mais qui ont leur histoire, qui est une histoire rurale, semi-rurale, et dont on entend pas beaucoup parler. Donc l'idée aussi, c'était de mettre l'accent sur ça.
Parce que c'est une manière aussi d'interroger l'identité, au moins dans ce qu'on vous renvoie, alors soit via les médias, soit dans votre parcours, qu'il soit professionnel ou quotidien. Vous qui, à travers le Bondy Blog, avez raconté la Seine-Saint-Denis, ce qu'on appelle les banlieues, justement, là, il y avait un parallèle à faire entre ces deux France et ces deux France de l'immigration, quelque part?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, ce que je dis dans le livre, c'est que on a beaucoup opposé souvent les régions rurales, ce qu'on appelle les territoires de la France oubliée, comme on a beaucoup entendu parler pendant la crise des Gilets jaunes, et les banlieues françaises. Et j'avais envie de raconter que, en fait, ces gens-là se ressemblent plus qu'ils ne s'opposent. Ce sont des gens qui vivent dans des situations de précarité pour beaucoup, que ce soit des gens que je connais à Romorantin ou que je connais dans les banlieues françaises, notamment en Seine-Saint-Denis. Ce sont des gens qui sont empêchés beaucoup aussi, parce que dans des situations sociales, géographiques, des problèmes de mobilité aussi, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller travailler, aller étudier. Et puis aussi cette barrière qu'on se met dans la tête parce qu'on n'habite pas forcément les bons endroits, parce qu'on n'habite pas les centres-villes, parce qu'on n'habite pas les grandes métropoles. Et donc du coup, avec des ambitions un peu empêchées aussi. Et donc je voulais raconter aussi ces passerelles, ces points communs entre ces populations qu'on a tendance souvent à opposer.
Parce que finalement, ces barrières géographiques que vous évoquez, c'est-à-dire que quand le métro ne va pas jusqu'à une ville de grande banlieue parisienne ou quand on ferme une petite ligne de train qui relie Romorantin, par exemple, à une plus grande ville, c'est la même mécanique qui est à l'œuvre. C'est un peu ça l'idée?
C'est ça, c'est-à-dire que c'est des empêchements. C'est des empêchements alors qu'ils ne sont pas forcément les structurés de la même manière, parce que quand on habite dans les banlieues autour des grandes métropoles, on a parfois accès à des choses qu'on n'a pas forcément accès quand on est dans des villes ou des territoires semi-ruraux. Mais c'est vrai que quand, par exemple, sur la question de la mobilité, quand on n'a pas accès à des transports pour pouvoir accéder aux villes les plus proches, bien c'est les mêmes mécanismes effectivement qui sont à l'œuvre, qui sont des mécanismes d'empêchement de mobilité géographique et qui pèsent beaucoup sur les parcours et les trajectoires des gens.
Alors, vous avez retrouvé les personnages de votre enfance, des amis, des connaissances. Pour certains, vous l'évoquiez tout à l'heure, ils sont devenus gilets jaunes. Au minimum, ils se reconnaissent dans ce mouvement. Il y a un parallèle là aussi à faire entre ce que vous avez pu raconter dans les banlieues françaises, en particulier en Seine-Saint-Denis à travers le Bondi Blog, et ce mouvement des gilets jaunes en termes de revendications. Je rappelle que le Bondi Globe, il est né en 2005 au moment de ce qu'on a appelé la crise des banlieues.
Oui, oui, oui. Et puis ce qui est très, très intéressant à observer, c'est que les habitants des banlieues qui ont été interrogés à plusieurs reprises sur la question des gilets jaunes le disent très clairement. Nous, on se reconnaît, pour beaucoup en tout cas, nous, disent-ils, on se reconnaît dans le mouvement des gilets jaunes parce que c'est un mouvement d'indignation sociale. Et que ce que vivent les gilets jaunes aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'ils revendiquent, c'est des choses que nous revendiquons depuis des années. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai entendu beaucoup de la part d'habitants de Seine-Saint-Denis que je connais et qui se reconnaissait très bien dans le mouvement des gilets jaunes, en tout cas dans les expressions du mouvement. Et quand moi je vais rencontrer des habitants d'un des quartiers populaires de Romorantin, notamment un des habitants que je vais voir avec un membre des gilets jaunes de Romorantin et qui dit oui, effectivement, nous on se reconnaît parce qu'en fait ce que vivent les gilets jaunes, ça fait 30 ans qu'on le dénonce, la question de la précarité, la question de l'empêchement de la mobilité, etc. Nous, c'est des choses qu'on vit depuis des années. En revanche, ce que nous vivons en tant que personnes d'origine immigrée, vous ne le vivez pas. Et donc, oui, il y a évidemment des points communs, mais avec des particularités qui sont celles qui sont spécifiques aussi à des habitants des quartiers populaires.
Ce que cette population de petits blancs, comme vous la décrivez parfois, a découvert aussi, c'est le rapport aux forces de l'ordre, aux violences policières. On a beaucoup parlé avec le mouvement des gilets jaunes et notamment l'emploi ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs de balles de défense. Ce sont les flashballs qui sont déjà utilisés depuis longtemps en banlieue et déjà dénoncés depuis longtemps sans que forcément il y ait eu le même écho médiatique jusque-là.
Oui, et puis d'ailleurs, plusieurs associations s'en sont émues à juste titre, en disant que c'est bien beau de le découvrir aujourd'hui, mais ça fait 10, 15, 20, 30 ans que ces armes, qui sont des armes meurtrières, qui sont des armes qui blessent et qui laissent des traces, sont utilisées dans des territoires, notamment dans les banlieues françaises autour des grandes métropoles. Et effectivement, il y a une sorte de sentiment d'injustice de la part de ces populations qui disent, mais que faisiez-vous, où étiez-vous toutes ces années où nous dénoncions l'utilisation de ces armes sans que ça n'émeuve quiconque. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la réponse des gilets jaunes, ou en tout cas une partie des gilets jaunes que moi j'ai rencontré, qui aujourd'hui se rendent compte et prennent conscience de ce que tout ça veut dire, eux qui étaient si éloignés de ces réalités-là avant et qui aujourd'hui les ont rencontrés et les ont malheureusement expérimentés au plus près.
Il nous reste un peu plus de 30 secondes, Narissa El-Mouadem. Ça a été facile, difficile de revenir à Romorantin en tant que journaliste, vous qui êtes une enfant du pays ?
Les deux, mon général. Non, facile parce qu'évidemment, moi, je connais cette ville et que les gens me connaissent et que je connais les gens et que du coup, en termes d'approche et en termes de confiance, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est difficile aussi parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de raconter. Mes proches, ma vie, ma ville. En général, quand on est journaliste, on a la particularité de parler à la troisième personne parce qu'on est là en observation et qu'on raconte la vie des gens. Là, je raconte la vie des gens, mais qui me sont proches, que je connais. Et donc, c'est vrai que ça, c'était particulièrement difficile à faire. Et puis, parce que je parle à la première personne et qu'en général, nous, journalistes, on ne parle jamais avec l'utilisation de cette première personne-là. Donc, voilà, c'était un exercice assez particulier. Ça m'a demandé un peu de temps d'adaptation. Mais je crois que c'est aussi l'intérêt du livre, c'est de parler de mon point de vue à moi, avec un retour en arrière de ce qu'était la ville de Romorantin qui ressemble à plein de petites villes de 18 000 habitants.
De la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup Nassir El Mouadem d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste, ex-directrice du Bondy Blog et autrice de Les Filles de Romorantin, séparées aux éditions de l'Iconoclaste.